avec votre esprit. Avec raison, sur la célébration qui a eu lieu à Vimy en France. Et puis, on raconte qu'il y a eu 25 000 Canadiens, Canadiennes, qui sont déplacés. Ce grand moment. Et ce que moi j'ai retenu, j'ai entendu des journalistes, et puis même du Premier ministre, et de beaucoup de personnes, disant que l'événement de Vimy est un événement fondateur pour le Canada comme nation au niveau international. En réfléchissant à cette affirmation-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que nous célébrons nous aussi aujourd'hui. Nous célébrons un événement fondateur. Vimy a fait de sorte que le Canada s'est présenté au niveau international comme une nation à égalité avec les autres, pour traiter les problèmes du monde et bâtir la paix. Le Triduum Pascal revient sur un événement fondateur du christianisme. L'événement fondateur du christianisme, c'est ce qu'on appelle le mystère pascal. c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur. Maintenant, quand nous regardons déjà la première lecture qui est tirée du livre de l'Exode, ce livre-là parle aussi d'un événement fondateur. Mais cette fois-là, l'événement fondateur du peuple d'Israël. Leur sortie du pays de l'Égypte est comprise comme l'événement clé qui a fait que ce peuple-là s'est constitué, s'est reconnu comme un peuple. Et avant de sortir de l'Égypte, voilà qu'ils prennent ce repas-là. Et au centre du repas, il y a un agneau rôti et puis il y a aussi du sang qu'ils ont mis sur les portes. Ce repas-là préfigurait le repas des chrétiens qui est l'Eucharistie. L'événement fondateur d'Israël préfigurait, annonçait l'événement fondateur du christianisme. Le peuple d'Israël, cette nuit-là, est parti du pays de l'esclavage, du pays de la souffrance, au pays de la paix, au pays de l'entente en terre promise. Il y a eu ce passage-là. Mais maintenant, dans l'événement chrétien, il y a aussi un passage, mais c'est le passage de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il part de cette vie-ci, de la mort, il fait son passage et il ressort dans la vie qui n'a pas de fin, la vie de Dieu. Donc, l'événement fondateur de l'Exode annonce l'événement fondateur qui se trouve dans les évangiles. Alors, quand on plonge et on va à la deuxième lecture, on nous parle de l'Eucharistie. C'est le texte le plus ancien dans le Nouveau Testament et qui revient sur le geste que Jésus a posé pour la première fois le jeudi saint, que nous appelons aujourd'hui l'Eucharistie ou bien la messe. Alors, cet événement-là, l'Eucharistie, résume la vie de Jésus. En d'autres termes, l'Eucharistie reprend l'événement fondateur du christianisme. Chaque fois que nous célébrons la messe, chaque fois que nous communions, nous reprenons ce qui nous a fondés, ce qui a fait que le christianisme est au début. Le christianisme est relancé. Pour dire, quand Paul dit que le Seigneur a pris du pain, a pris la coupe et il l'a partagé avec ceux qui l'entouraient, ça veut dire que le Seigneur se donnait entièrement à ses apôtres et par eux, il se donnait à l'humanité. Il se donne complètement pour que l'humanité reçoive la vie et commence à vivre à sa manière. Voilà le sens de l'Eucharistie. Mais quand on va à l'Évangile, il faut relier l'Eucharistie au lavement de pieds. Le lavement de pieds était bien connu. Ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. Il était connu dans l'Antiquité. Et ce sont les esclaves, comme vous savez, les serviteurs, qui avaient l'habitude de laver les pieds des invités qui venaient en famille, à la maison. Donc c'était courant, c'était populaire. Et c'était une manière de vivre l'hospitalité. C'était une manière d'accueillir les personnes qui viennent vous rendre visite. D'abord, la première chose, vous les nettoyez les pieds, vous les lavez les pieds. Et comme je l'ai dit, c'est le serviteur et c'est l'esclave qui avait cette tâche-là. On ne pouvait jamais imaginer que la maîtresse de la maison, le maître de la maison, puisse commencer à laver les pieds de ses invités. Voilà que notre Seigneur, ce jour-là, à table, lui, le maître et seigneur, il se met à genoux et il commence à laver les pieds de ses disciples. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors Jésus s'est approprié le lavement de pieds et lui a donné un sens particulier. Et quel est le sens? Eh bien, ça veut dire que toute sa vie, en fait, est récapitulée dans ces gestes-là. Que depuis sa naissance jusqu'à la croix, il a été au service de l'humanité. Il a toujours été là à la disposition des autres. Ça a été un homme pour les autres. C'est ce que ça signifie, le lavement de pieds. Si Jésus se l'a approprié, c'est pour nous dire quel genre d'existence a été la sienne. Quel genre de vie il a vécu. Maintenant, quand vous allez dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas une place où Jésus dit de but en blanc, d'une manière claire, évidente, « Suivez mon exemple ». Mais vous le trouvez en Jean 13, dans l'évangile, nous venons de lire. « Si moi, le Maître Seigneur, je vous ai lavé les pieds des disciples, vous, et c'est que vous aussi, les disciples, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, moi je le fais. » Mais maintenant, il ne s'agit pas de prendre l'acte physique de se laver les pieds. On peut le faire, c'est bien. Mais cet acte physique-là doit exprimer notre élan intérieur. L'élan intérieur qui exprime le don de soi, qui exprime le désintéressement. L'élan de laver les pieds, c'est cet élan intérieur qui nous met toute à la disposition de l'autre. C'est ça la signification du lavement des pieds. Alors quand nous le faisons, eh bien nous reprenons ces gestes-là. En d'autres mots, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien ça veut dire que quand tu laves les pieds, mets-toi en tête que Jésus était à table. Il est parti de la table, il a ôté le vêtement de dessus, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Alors ce qu'il veut nous dire, c'est que sors de ton fauteuil où tu es confortable. Sors, quitte ton fauteuil d'arrogance et mets-toi à genoux pour laver les pieds de tes frères et de tes sœurs. Quitte ton fauteuil d'aisance, de suffisance. Quitte ton fauteuil d'orgueil pour te mettre à genoux et commencer à laver les pieds de tes frères et de tes sœurs. Et c'est continuellement ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardez, on a été tous frappés hier quand on a suivi le discours de la jeune pakistanaise Malala. Et puis, elle, évidemment, elle défend l'éducation des jeunes filles. Et une des choses qui m'a frappé qu'elle a dites, c'est qu'elle ne voudrait pas que les générations qui viennent plus tard qui puissent dire, nous autres là, nous avons laissé passer 130 millions de jeunes filles dans le monde sans éducation et ça ne nous a pas dérangé du tout. Il me semble que cette fille-là a rendu service à ses consoeurs du Pakistan. On dit que c'est à partir de 14 ans qu'elle a commencé déjà à lutter, à défendre le droit des jeunes filles d'étudier dans son pays déjà. Et on sait bien qu'on l'a été tiré, vous connaissez les droits. Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'on interroge son père, parce que son père était déjà militant, et son père finalement qui a pratiquement influencé sa fille. Alors le journaliste lui dit, écoute, là je sais que tu as influencé ta fille, si aujourd'hui elle est vraiment féministe et qu'elle défend la cause des femmes, surtout des jeunes filles pour l'éducation, toi tu le faisais déjà dans ton pays, elle a suivi tes traces. Le papa dit oui, elle a suivi mes traces. Si j'étais son modèle à un moment donné, aujourd'hui elle est mon modèle, dit papa. Pour dire, en fait, le Seigneur qui nous demande d'être, de suivre ce modèle, en même temps, il nous demande aussi de donner de l'encouragement aux plus jeunes, aux personnes qui nous suivent. Les enfants suivent la foi de maman. Les enfants suivent l'amour de papa. Les enfants suivent l'attachement des grands-mères, des grands-pères. Ils suivent l'exemple. Alors nous devons être comme Saint Paul, chercher d'une certaine manière à rayonner. Mais seul, on ne peut pas réussir. Mais c'est toujours avec la grâce de Dieu qu'on peut le faire, continuellement. Je me rappelle de Saint-Jean Chrysostome parlant de l'Eucharistie, parce que voyez-vous, Paul nous a parlé de l'Eucharistie qu'a célébré Jésus, et quand Jésus donne à manger, et quand nous communions, dans la mentalité, ça continue encore aujourd'hui à l'Antiquité, quand tu es à table que tu manges, c'est que tu participes à la communion qui est à table. Alors quand nous mangeons le corps et le sang du Christ, c'est que nous participons à son amour, nous participons à sa vie, nous participons à son salut. n'est pas une affaire de manger pour manger. Voyez-vous? Alors, quand on communie, c'est que nous prenons part à l'amour du Christ, nous prenons part à sa manière d'aimer, nous prenons part à sa manière de servir. Mais maintenant, Saint Jean Chrysostome dit une chose très importante. Il dit, regardez le tabernacle. Et puis, le Seigneur est présent. Souvent, nous soignons le tabernacle avec raison. Il dit, regardez, aujourd'hui, nous allons célébrer la messe. Nous avons choisi les plus beaux calices et les plus beaux ciboires. Parce que c'est une grande fête. C'est bien. C'est doré, ça brille, c'est bien. Parce que le Seigneur est présent et nous l'adorons. Il est faux. Après cette messe, nous allons descendre, nous tous, nous toutes, pour aller faire l'adoration du Seigneur qui est présent dans le Saint-Corps. Mais Jean Chrysostome poursuit. Il dit, ce même Seigneur-là, que nous adorons dans le tabernacle, que nous honorons dans le calice doré, que nous honorons dans les ciboires dorés, ce même Seigneur est présent dans la personne en haillon. C'est le même Seigneur Jésus qui est présent dans la veuve. C'est le même Seigneur Jésus qui est présent dans la personne avec la maladie mentale. C'est le même Jésus qui est présent dans l'exclu, dans le réfugié. C'est le même Seigneur. Alors, si nous adorons, nous mettons à genoux devant le Seigneur dans le tabernacle, de la même manière pour se mettre à genoux, la pied les pieds disciples de la personne qui est en haillon, parce que c'est le même Seigneur. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Comment ça? Mais oui, si vous avez fait à celui-là, c'est à moi que vous avez fait, nous dit le Seigneur. Alors, nous allons continuer notre célébration. Demandons la grâce du Seigneur, comme je le dis dans mon texte. Faisons les choses à la manière de Jésus. Aimer à la manière de Jésus, c'est être à la disposition de l'autre, se faire le don de sa personne. Et cela, c'est continuellement dans sa vie. Seul, nous ne réussirons jamais. C'est pourquoi il faut toujours s'inspirer de lui-même. Et l'Eucharistie que nous prenons va nous disposer, nous donner la grâce de faire comme Jésus, d'aimer comme lui, de rendre service comme lui. Amen.